Salut. Nos oreilles interceptant ces mots, il est donc de supposer que nous avons les mêmes préoccupations. Nous éprouvons ce besoin physique de vous faire part de nos coups de cœur, voire de les exprimer tout simplement. Goutte d'encre dans une mer d'informations, poignée de hertz alternatifs dans un océan de décibels. Des larmes de bonheur ou de rage plein les yeux après avoir vu un film ou lu un livre, et voilà que nos voix s'en viennent charmer la bande FM. Et vous, chers auditeurs. Alors, attention, soyez intelligemment en marche, lisez, regardez, soyez curieux pour que personne ne le soit jamais à votre place. Vous êtes sur Radio Brodionnet et vous écoutez les détourneurs de Corbillard. C'est donc toujours sur ces chemins tortueux que les détourneurs reviennent sévir, toujours prêts à vous dérouter, vous emmener dans d'autres directions. Le label de musique pointue qui signe Death Affect, nos artistes de la semaine. Un duo de l'orienté devenu Quatuor qui s'illustre dans un hip-hop mélodique et sombre, digne des meilleurs prods d'Anticon. Death Affect, une nouvelle direction pour le hip-hop d'ici. Death Affect avec l'album Archilemb propose un album déroutant à la fois mental et physique, autant de jeux de déconstruction parfois allant jusqu'au vertige qui permettent les Abstract Kilogram en leur temps l'année dernière permettent au hip-hop breton d'enfoncer encore un peu plus le clou dans l'œil torve des rappeurs des mentales. Vous êtes sur Radio Brodionnet. Et là, c'est les détourneurs de Corbillard. Un peu d'attention quand même. Alors aujourd'hui, on avait envie de parler un peu d'électronique globalement, on avait ça en tête et fallait trouver un sujet un peu plus pointu, quoi. Enfin, quelque chose de plus construit. Et en fait, on en est venu à la culture jeune, à la culture du club. Et on s'est rendu compte que depuis le néo-hippie belge à l'anneau dans le nez, en passant par le breakdancer de Tokyo, portant dreadlocks et jeans baggy, les groupes de jeunes très disparates et dispersés aux quatre coins du globe ont tous ce point en commun, la musique. Alors à la fois un mode de vie, lien social, force spirituelle, cette musique leur indique des pistes utiles dans leur quête d'identité et leur donne également des moyens de s'exprimer. Ce qu'on a voulu pour cette émission, et je pense que pour quelques-unes à venir aussi, c'est un peu comme on a pu le faire pour la critique rock, retracer un peu l'itinéraire d'un des genres les plus touchés par la mondialisation de la musique populaire, la dance électronique. L'idée, c'était d'essayer de mettre un peu en lumière comment un mouvement hautement culturel peut très bien dégénérer et devenir un nouveau moyen pour les capitalistes de revendre aux gens une image de la vie qui leur a été volée. Pourtant, on sait que ce serait idiot de rejeter pour autant cette culture sous prétexte qu'elle n'a pas débouché sur un mouvement politique organisé. Que c'est une bien lourde tâche qui nous attend. Le problème, je vous le disais tout à l'heure, étant de trouver en fait un angle potable à notre prise de position. Alors, il faut quand même dire que c'est un sujet qui depuis un certain temps, nous trottait dans la tête sans qu'on ait pu s'expliquer trop pourquoi, quoi. Si ce n'est qu'on peut se demander quand même comment en jeune punk anarchiste nous ayons glissé immanquablement vers ces mouvements si dansants. Hein ? Pourquoi ? Alors, y a une chose qui est sûre, c'est que ça tient réellement qu'à pas grand chose, quoi. Hein ? Une rencontre ou deux. Et puis finalement ce choc frontal avec la platine. Tiens, c'est pas mal ça comme début. On n'a qu'à commencer par ça, ouais. le disque Jockey et son histoire.
Greetings, this is David Mancuso. We hope you enjoy the music and record it for your home personal music library.
L'histoire des disc-jockeys, simple animateur de soirée devenu producteur, commence dans l'ancienne Mecque du disco, New York, pour finir dans le monde entier. The message is hot and smoking. Would you like to see the future? Nobody's joking. Velcro people with X-ray sight will be making judgments about what's wrong and what's right. Politicians and lawyers all know what it means. They'll be keeping it all legal with political visqueen. Macho City! Macho City! As time marches through the ages, Macho City! Macho man always shooting up history's pages. Macho City! Taking over this, taking over that. Macho man's always where it's at. Macho City. El Salvador, Afghanistan. Macho City. Ask those people about the macho plan. Macho City. Servants, mystic mud, silver bullets, head pre-time stud, black cat bone, the heebie-jeebies, Johnny Conqueror's personal voodoo key, way over yonder, over on yonder's wall, looks like Macho Man's headed for a big fall. How can Macho Man heal his soul? Will powerful Root Man let him go? Alors, pendant des décennies, les DJ ont passé des disques. Puis au cours des 35 dernières années, qui ont vu l'essor de la musique dance électronique, ils sont devenus de véritables icônes culturelles. Et c'est là que les questions fusent. Quand cette conversion s'est-elle opérée? Comment se sont-ils transformés en gardiens des industries musicales locales, puis pour certains en ambassadeurs mondiaux des styles les plus tendances? D'où tiennent-ils leur succès? De leur art consommé, d'ensorceler les danseurs? De leur façon de travailler un disque pour qu'il paraisse à la fois familier et d'une captivante nouveauté? Ouais, la réponse est sans doute un mélange de toutes ces raisons, mais rien encore assez précis. Alors, pour affiner tout ça, on a pris le parti aux détourneurs de Corbière de mettre le pied au dance floor et de tester une nuit à la capitale, dans un grand appart aménagé pour l'occasion en club privé. Le club Jacuzzi, et c'est aux origines que nous sommes remontés, à la source.
Ok, donc je te disais, cher Yvan, que le club Jacuzzi a été créé il y a 3 ans, sous l'influence d'un club mythique et légendaire qui s'appelle le Loft, qui était très très important dans l'histoire de la musique, qui a été créé par David Mancuso, qui était un DJ, un des tout premiers DJ de l'histoire, et qui a commencé à mixer à la fin des années 60, début des années 70, et qui a créé ce club, le Loft, à New York, dans son loft, chez lui. Et c'était une scène très 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 petite, quoi. Il y avait très peu de monde invité, il fallait être membre, fallait être coopté pour aller dans son club. Et c'était un truc très très underground, très peu de gens y allaient, quoi. Et ça réunissait à l'époque tout ce qui est tous les laissés pour compte de New York, c'est-à-dire c'était toute la scène homo, tous les noirs homo, c'était vraiment eux, vraiment les plus minoritaires de tous, quoi, évidemment. Et ils se retrouvaient tous dans ce club, fallait vraiment connaître, quoi, pour écouter de la musique un peu différente, danser. Et surtout danser, la danse était très importante. Il y avait des danseurs, les danseurs du loft ont créé un style qui s'appelle le loft style, qui était une danse incroyable. Et ça va être très long, mon histoire. T'as ton temps.
Won't let
ainsi la culture DJ plongerait ses racines dans les grands foyers urbains de la créativité musicale des villes comme New York, quoi. Et il semble, c'est évident qu'on ne puisse pas retracer l'histoire des DJ sans partir de là, sans évoquer l'ère disco de la fin des années 60, sans parler de ce carrefour de la culture africaine-américaine et de la prise de conscience homosexuelle, les deux phénomènes en fait qui ont constitué le socle de la culture dance contemporaine.
Le son New York, c'est ce que les DJ, les disquaires appellent le son de New York, c'est un mélange de plein d'influences différentes, mais avec toujours une s'appelle côté funky comme ça, enfin, très funky. Et c'est vrai que s'il y a une date, s'il y a un an zéro du clubbing new-yorkais, c'est 69-70, quand notre maître à tous, David Mancuso, a créé sa première loft party à New York. C'était pendant un nouvel an, et c'était en quelque sorte la poursuite de l'esprit hippie des années 60, mais dans un contexte beaucoup plus underground. Parce que si on doit se rappeler un peu le contexte historique, c'est que 69, c'est la fin de la hippie, c'est le fameux concert des Stone Island Bar.
Silver messenger gone, taking light from the sun, changing two hearts to one. Rivers flowing, soft shimmering golden, moving mountains and changing the valleys. Hear the children play down by the roadside as the bells toll the end of their freedom. Softly of dawn, silver messenger gone, taking light from the sun, changing two hearts to one. As I dwell in my squalor and madness, waiting now for my promised deliverance, hear the children not knowing their future, as the old ones sing blindly of hash.
Alors qu'on l'associe au disco, au clubbing ou à la house, cette culture a vu le jour dans la grosse pomme. New York est devenue la capitale mondiale du disco au milieu des années 70 grâce à sa folle vie nocturne underground. En fait, les légendaires discothèques new-yorkaises seraient le fruit d'une évolution des lieux où l'on dansait dans les années 60, avec ou sans DJ d'ailleurs, sur de la musique enregistrée. On pense au Sanctuary, au Better Days, ou encore au Paradise Garage, ou au fameux loft de de David Mancuso, si cher à nos hôtes.
Et il utilisait des cellules Koetsu qui coûtent 10 000 dollars pièce. Il utilisait des amplis Macintosh, des préamplis Macintosh et des enceintes Clipshorn qui sont des grandes enceintes qui coûtent là aussi 15 000 dollars la pièce, quoi, des trucs incroyables. C'est l'audiophile, quoi. C'est un son incroyable. On a quand tu vas au loft, ça existe encore le loft à New York. Le club, ouais. Le club existe encore. Il a été recréé il y a pas très longtemps. Il existe encore, quoi. Il y a un son hallucinant, quoi. Et il voulait, en fait, son idée, c'était de recréer avec un enregistrement une qualité sonore qu'on trouve dans les lives, quoi, qu'on trouve dans des concerts, quoi. Et donc, il passait des disques très, très, très variés. Il y a une très grande variété. Ça va du Talking Heads à la house, ensuite à la disco, à des trucs très underground. Et tous les grands DJ qui ont ensuite créé, sont devenus des grands DJ comme Larry Levan, comme Danny Krivitz, comme François Kevorkian, étaient membres du club Jacuzzi, du club du Loft.
C'est Radio Wajonet, vous écoutez les détourneurs de Corbillard. On est sur le dance floor, mec. Alors, les discothèques, tout d'abord élitistes à l'époque, réservées à la jet set new-yorkaise, vont s'adapter aux changements sociaux qui traversaient la société US. Des jeunes citadins marginalisés, ou en fait qui se vivaient comme tels, notamment les minorités ethniques, les femmes, les homosexuels, tous ces marginaux ont commencé tout doucement à faire entendre leur voix.
Si on doit se rappeler un peu le contexte historique, c'est que 69, c'est la fin du rêve hippie, c'est le fameux concert des Stones à Hyde Park, c'est la fin des grandes manifestations collectives, et c'est aussi le retour de bâton d'un ordre moral avec Nixon aux États-Unis, et aussi une intensification des bombardements sur le Vietnam. Donc il y a vraiment une sorte de désillusion générale, et du coup où va se concentrer cet esprit un peu flower power, c'est dans les fêtes privées à New York, voilà.
Voilà, donc un mouvement qui regroupait hippies anti-establishment et pré-woodstockiens, poètes tourmentés, zikos, acteurs, artistes en tout genre, et toute une foule de caucasiens, afro-américains et latinos issus de la classe ouvrière. Ces gens se mélangeaient à l'occasion, notamment dans le loft de David Mancuso, mais fréquentaient plutôt des lieux différents qu'ils choisissaient en fonction de leur orientation sexuelle. Certains de ces endroits faisaient régulièrement l'objet de descentes de police, jusqu'à ce que les légendaires émeutes de Stonewall y mettent fin.
Voilà. Donc, tout ça, il y a toute une idéologie, un peu peace and love, et surtout. L'idée de construire une communauté autour de la musique et du rythme.
C'est quand même, on est quand même bien dans une histoire qui est liée étroitement à la...
aux États-Unis. Aux États-Unis.
Ça, c'est une chose, mais à la fait que le mouvement hippie...
Il périclite, ouais. Et tu as, quelque chose qui va donner naissance plus tard au disco, et qui naît vraiment dans les clubs, dans les soirées privées, plein de soirées privées, dont la principale est celle de David Mancuso. Donc, autre chose, donc il y a plusieurs éléments dans ces soirées, beaucoup de drogue, une mixité sociale et culturelle très diverse qui se retrouve dans la musique, parce qu'il faut faire danser des gens venus d'horizons très différents, beaucoup de noirs et aussi beaucoup de gays. Parce qu'il faut voir aussi qu'en 69, il y a aussi ce qu'on appelle les émeutes de... Non, parce qu'il y a effectivement toute une gauche contestataire qui vire dans le terrorisme, cette rébellion. Non, mais c'est très important.
C'est Stonewall.
C'est la première fois qu'il y a un mouvement gay très pédé qui se constitue, parce que ça se passait dans un bar, et dans ce bar, des flics ont arrêté deux pédés qui s'embrassaient. Et du coup, il y a eu toutes ces émeutes, et ça a pris beaucoup, ça s'est amplifié. Et du coup, il y a eu beaucoup de clubs très fermés, où se retrouvaient tous ces gays et qui dansaient sur de la musique noire. Voilà. Donc, c'est ce mélange de plusieurs courants différents et très qui a donné naissance à ce son, à cette musique, parce qu'il fallait d'un côté, il fallait parce qu'il y avait aussi des pratiques et de danse qu'on ne retrouvait dans aucun club straight, c'est-à-dire l'idée d'un rythme qui se prolonge jusqu'au bout de la nuit, jusqu'au petit matin. Il fallait toujours, parce que c'était une sorte de marathon, de grand marathon.
Il fallait quand même quelqu'un qui soit en capacité de...
Oui, mais lui a réussi parce que ses fêtes étaient absolument incroyables, et surtout parce qu'il il avait une... Non, mais il avait aussi donc comme un peu chez Alexandre, très pointilleux sur tous les détails et surtout sur le niveau du son. Et du coup, il y avait le plus beau sound system chez David Mancuso, et c'était l'un des rares clubs où il y avait des noirs et des blancs qui dansaient ensemble, des femmes célibataires. Je crois que lui a réussi à se monter, à créer un carnet d'adresses avec des
Je vais te couper tout de suite, mais ma quête là tout de suite, c'est pourquoi.
Pourquoi à ce moment-là ?
Non, pourquoi ? Pourquoi lui ? Pourquoi à cette période-là, à ce moment-là, il arrive à fédérer ça ?
Il y avait déjà dans son club, dans son appartement, un punch à l'acide très connu. On arrive à la drogue.
Voilà.
Mais c'est pas seulement que ça, parce que c'est pas le seul.
On n'arrive pas à la drogue forcément, on arrive aux outils. Quels outils ? Parce que lui seul, personnellement, intrinsèquement, il n'est pas forcément enclin à fédérer autant que ça. C'est qu'à côté, il y avait un
petit contexte. C'était un contexte rappelé.
Ouais, ça, c'est assez large. Ouais.
C'est très large, mais ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas un seul club qui s'est créé à ce moment-là. Il y en a eu plusieurs, une myriade. C'est un essaim. Et il y a de plein de petites fêtes, notamment à Fire Island aussi, qui était près de New York, où il y avait des clubs très gays, où les gens pouvaient aller danser tranquillement sans être importunés par la police. Et donc il y avait tout un réseau qui s'est créé comme ça. Et c'est vrai que pourquoi les fêtes de Mancuso étaient beaucoup plus bien meilleures que les autres, c'est parce que il y avait des noirs, et les noirs dansaient rarement avec les blancs, et surtout ils dansaient dans leur propre club à Harlem. Et lui a réussi à faire la connexion entre ce public noir, qui était un peu exclu des circuits clubs, et donc c'était vraiment, on était vraiment à la marge de la marge. C'est un mélange de hippies, de freaks, de drogués, de plein de marginaux comme ça, et tout ça réuni autour d'un son absolument prodigieux, cristallin.
Home Sweet Home, là, chez mon cousin.
Voilà, c'est ça, c'est un Home Sweet Home. Et d'ailleurs, il y a un morceau qui est très. Là-dessus, il y a toute une idéologie, la manière dont il programme ses chansons, ses morceaux. Parce qu'il s'est beaucoup inspiré, je pense, d'un livre de Timothy Leary qui s'appelle Psychedelic Experience. Qui lui-même est inspiré des non, mais, donc de l'acide tout ça et donc il y a d'ailleurs les premières soirées de Mancuso s'appelaient Love Saves the Day, l'amour sauve les jours, bénit les jours, mais si tu vois les initiales ça veut dire LSD, donc on est en plein dans ce rêve hippie. Et progressivement se substitue à la drogue la musique est un moyen de faire un trip, de faire un voyage. Et c'est peut-être ça là qu'on s'appelle la différence vraiment majeure entre les DJ avant Mancuso, parce que ça n'existe pas depuis Mancuso, ça existe depuis le début de la radio. Il y avait déjà des DJ à New York très 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 fameux qui arrivaient à mixer les morceaux, mais c'est cette idée qu'on construit un voyage avec la musique. Donc c'est un art de la programmation et qui doit rajeunir le corps et guérir les âmes. Et c'est même pas ça.
Et donc, après cette date donc de 69, cette communion entre toutes ces races et toutes ces modes de vie, de nombreux gays et lesbiennes commenceront donc à comprendre que leur clubbing peut leur offrir bien plus qu'un simple passe-temps. Il leur permettra aussi de se construire une identité commune. Et on voit du coup se dessiner une première réponse à notre questionnement initial, ce basculement de la fin du rêve hippie vers la recherche d'un nouveau trip à travers la séduction, le culte du corps et la levée des interdits identitaires et ségrégationnistes.
Moi je pense que même plus profondément, je crois que dans la culture américaine, il y a déjà cette valorisation du corps. Il faut dire Whitman, voit déjà le corps électrique, l'idée que la nation américaine est une nation de beau corps et de jeunesse. Oui, c'est une mesure liée à Freud. Donc c'est vraiment un phénomène qui est ancré dans une culture américaine et dans une histoire.
C'est certainement pour ça que le LSD il a eu autant d'impact.
Oui, parce que le LSD...
sur ce pays-là et sur ces gens-là.
Oui, tout à fait. Quand tu lis Timothy Leary, le LSD est un moyen de revenir à une vie infracellulaire, à rajeunir. Et donc il y a cette idée de rajeunissement à travers la musique, de régénération.
Énorme.
Voilà.
Merci beaucoup.
L'émission est terminée, on va se quitter avec Django. Voilà, on se dit à la semaine prochaine. On continuera à déblatérer sur l'évolution de la musique électronique et la fusion des hommes et du dance floor. À dimanche prochain, sinon à mardi soir, l'oreille de Moscou, c'est une micro-marche, c'est ce coup-ci. Et voilà, je vous laisse avec Hervé, la tribune sportive football. Bonne fin de dimanche et je vous dis un petit merci au Vinyl Junkie, sans qui l'émission là aurait eu du mal à se construire. Comme quoi ça continue de fonctionner, l'apport extérieur, c'est mythique. Je vous embrasse les Vinyl Junkies.
Salut.